Le tir est levé!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
Bonjour tout le monde et bienvenue à Sur Réception, balado 100% axé sur le hockey et évidemment sur l'actualité d'un de hockey. C'est le grand retour de Sur Réception après un grand break de, en tout cas, plus de 10 mois. Là.
Depuis décembre, j'ai
c'est fait à peu près 10 mois, là, je crois, là, depuis le dernier live, là, mais en tout cas, on fera pas de live pour l'instant parce qu'on s'est rendu compte que la formule ne fonctionnait pas autant qu'au début de l'année 2022. Mais bref, c'est à moi, Doyle Ibrahim, qui va être de retour pour l'animation. Et pour l'occasion, on va juste être trois. Un habitué de l'émission depuis déjà plus d'un an, Thomas Lafont est avec moi. Et également, on a un nouveau collaborateur pour la saison, puisqu'on va être plus que ce qu'on était lors des deux dernières années. On a Grégory Hamel qui va être avec nous. Greg, Tom, comment allez-vous, monsieur?
Écoute, ça va très bien. Très hâte de recommencer l'aventure de surréception après cette pause forcée. Mais bon, une nouvelle saison, on n'en parle pas. Profitons-en.
Bien sûr, je suis très heureux de pouvoir vous joindre aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte que ça commence.
Tant mieux, tant mieux. Écoutez, là, on va rentrer dans le vif du sujet. D'abord, on va commencer avec la formation qui est la plus proche de notre localisation 1-2-3, qui est le Canadien de Montréal. Bon, messieurs, la question est simple. C'est quoi vos attentes pour le Canadien de Montréal pour cette saison? Je vais commencer avec toi, Greg.
Je pense que, tu sais, un peu comme n'importe qui, c'est une période de transition, une période de reconstruction. Sûr que je pense que... On veut du progrès, on veut de la progression avant tout. Je pense pas qu'on s'attend à beaucoup de résultats. On veut que les jeunes joueurs gagnent de l'expérience, qu'ils gagnent en maturité, qu'ils soient plus confiants. Puis une hausse de production, j'ai aussi notre noyau qui va composer notre futur dans les prochaines années. Donc, je pense qu'on ne peut pas s'attendre vraiment à faire les séries, mais je pense qu'on va jouer des parties importantes, des parties... On est dans une division tellement forte, tellement compétitive que forcément, on peut juste s'améliorer en jouant contre des équipes comme ça. C'est une division qui s'est grossie énormément pendant l'été avec des acquisitions... Des grosses acquisitions, autant physiquement que sur la glace, des joueurs qui peuvent produire. Donc, ça va être. Il va y avoir beaucoup de matchs difficiles, beaucoup de matchs contre une forte compétition, mais je pense que les Canadiens vont faire un peu comme l'année passée. Je pense qu'on veut juste de la progression, donner un peu plus de fil à retordre aux adversaires, mais je pense qu'on ne veut pas encore aider aux séries ou rien de tel.
Tom.
Ben écoute, j'abonde dans le même sens. Je pense que le Canadien va terminer à peu près au même rang qu'il y a la saison dernière, même si il devrait avoir une certaine amélioration. Parce que du côté du Canadien, je pense que ce qu'il faut espérer, c'est la progression comme que Greg a dit. C'est une année de transition, c'est encore dans le cycle de reconstruction. Mais le problème, c'est que tu regardes la division Atlantique, même quand le Canadien va être prête pour les séries dans 2, 3, 4, 5 ans. Les autres équipes sont en avant. Deux, tu regardes Ottawa, qui ont commencé la reconstruction peut-être à peu près en même temps, 2018-2019, puis qui arrive à maturité. Buffalo, qui eux aussi arrive à maturité. Tampa Bay, Toronto, qui sont dans leur prime. La seule équipe qui pourrait, qui va connaître un recul d'ici quelques années, c'est Boston, Floride, puis même Détroit devrait monter dans le classement prochainement avec les espoirs qui s'en viennent, les Edvinson, les Soderblom, puis également tous les jeunes qui ont repêché dernièrement, Marco Kasper, Sandine Pelinka, tous ces gars-là, quand ils vont arriver, ça va devenir vraiment intéressant à Détroit. Même chose côté Montréal. L'avenir, honnêtement, à Montréal, ça s'en est pas très reluisant.
Ben, il y a quand même des des aspects positifs, je trouve, là, du côté du Canadien de Montréal. On s'entend pour dire qu'il y a déjà du côté de la défense, là, avec évidemment là, avec l'excellent camp d'entraînement de Logan Mailloux, là, avec là, déjà avec la surprise, je peux dire, du côté de Mathias Norlinder, qui, en tout cas, a connu un excellent camp d'entraînement, puis il joue beaucoup de minutes, notamment en avantage numérique. Déjà là, je trouve que c'est mieux. Puis en plus, avec l'arrivée de Ram Bakker qu'on a vu en camp d'entraînement, bon, il repart en Suisse, mais déjà, tu vois que ça augure beaucoup de bonnes choses du côté de Montréal, surtout à la défense. Puis en plus, j'ai même pas parlé de Lane Hudson qui, d'ici 2-3 ans, devrait, d'après moi, le général en avantage numérique chez Canadiens de Montréal, peut-être même le carrière du côté de Montréal. Bon, ça va dépendre de lui. Puis Goulet, encore une fois, moi, que j'ai trouvé que se débrouille bien. Il y a des aspects positifs de son côté. C'est sûr que du côté de l'attaque, c'est vrai que c'est un peu plus mince. Déjà, il y a une grande question. Qui va jouer avec Suzuki puis Caulfield? Déjà là, ça, c'est une autre question.
Ça aurait pu être moins mince, mais les Canadiens ont choisi d'y aller avec un choix safe.
Déjà Goulet, je pense qu'au moment de sa sélection, il y avait du monde qui était perplexe. Puis récemment, il joue vraiment comme un vétéran. Il était à sa deuxième saison. Puis déjà, on dirait que ça fait 10 ans que je suis dans le national. Je vais laisser le temps un peu. C'est sûr que c'est pas le choix populaire, Ryan Backer ni Slavkovski. Surtout quand on regarde les joueurs qui ont été choisis un peu après. Mais je pense que, tu sais, tu avais parlé du terme un peu. Je pense que c'est un excellent moment pour le Canadien d'être dans cette période de reconstruction parce que tu regardes une équipe comme Buffalo qui, eux, ils souhaitent aller au prochain niveau, là, qui ont un peu terminé leur reconstruction en termes d'ajouter des hauts choix au repêchage. Ils ont une excellente équipe. Ils ont un fort noyau jeune, mais ils sont juste encore pas capables de se rendre en série à cause que la division est tellement compétitive. Que si nous, là, on serait rendu, que Suzuki serait rendu à 26, Caulfield, tu sais, dans ces années-là, puis que là, ça serait le temps de compétitionner, puis on serait encore en train de compétitionner contre des équipes comme Boston, Tampa, qui sont, tu sais, encore fortes malgré le fait que dans quelques années, là, ils vont peut-être passer à autre chose, vont tourner la page un peu. Mais je pense que, tu sais, Montréal, puis je dirais peut-être aussi Détroit, sont peut-être les deux équipes dans l'Atlantique qui, eux, sont encore dans un mouvement plus, tu sais, de patience, on veut racheter encore des éléments pour le futur. Parce que si on était rendu, tu sais, que notre noyau il serait mature, puis que ça serait là notre moment de compétitionner, ça serait un moment, tu sais, dans l'Atlantique, c'est tellement compétitif que c'est pas nécessairement le meilleur moment pour essayer d'avoir un jeune noyau qui sera long en série.
Mais d'où aussi, si tu me permets, t'as parlé de Norlinder, comme quoi que tu vois en défense. Je pense pas que Norlinder a un futur comme régulier dans la Ligue nationale où il a connu deux bons matchs préparatoires. Par contre, à Laval, depuis quelques années, c'est quand même assez difficile. Même l'année passée, il a eu de la misère à faire sa place dans l'alignement régulier. Puis même là, je pense pas qu'il y a nécessairement sa place présentement côté... Dans sa prise de décision, dans tout ce qui est IQ, il n'est pas nécessairement là encore. Puis, je pense que personnellement, c'est mieux de scraper un Norlinder en haut qu'un Mailloux, qu'un Hudson ou un Rhinebacker. Mais par contre, je pense pas que Mathias Norlinder a sa place dans un alignement futur du Canadien.
Ben écoute, c'est encore tôt que tu dis, Tom, t'es. Faut pas oublier un défenseur, le développement d'un défenseur est beaucoup plus lent que celui d'un attaquant, puis surtout avec des défenseurs européens, des fois ça prend plus de temps à éclore. Puis du côté de Mathias Norlinder, qui aurait cru que Mathias Norlinder aurait eu un bon camp d'entraînement cette saison du côté de Montréal? Personne ou presque personne. Déjà le fait qu'il joue déjà beaucoup de minutes, notamment en étant sur la première paire d'avantages numériques, c'est quand même assez... moi, je trouve que c'est une progression majeure là, sur son jeu. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites lacunes, mais c'est normal, c'est un jeune joueur. C'est normal que n'importe quel jeune joueur ait des lacunes. Donc, mais je trouve que c'est quand même un peu trop tôt pour dire ça. C'est sûr que ce ne sera pas le défenseur numéro 1 du Canadien de Montréal, ça c'est clair. Mais Moi, je trouve pas que c'est si pire. Je pense pas que c'est si inquiétant que ça du côté de Canadien Montréal. C'est surtout pour ça que j'ai mentionné Nalanda, Mayu, puis les deux autres en David Rambacher, puis Lane Hudson. Moi, je trouve que c'est moins inquiétant qu'on le pense. Mais c'est juste que c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, c'est sûr que là, Slafkovský a eu peut-être un camp d'entraînement correct. A eu des moments. Il paraît mieux que l'année passée, c'est clair, mais est-ce qu'il peut avoir encore des doutes par rapport à son potentiel? Il faut juste être patient. Puis,
en même temps, ça, c'est le premier match depuis le mois de janvier. Donc, c'est sûr que ça va être plus difficile. Je pense qu'il est encore trop tôt pour l'évaluer tout de suite. On devrait attendre d'ici au moins un ou deux mois dans la saison. Je dirais même faire un conseil.
Il ne faut pas oublier aussi je vais peut-être le répéter, je le dis souvent, là, mais il reste encore deux boulets là, à l'attaque du côté du Canadien de Montréal. T'as Joel Armia et Brendan Gallagher, que pour moi, je suis désolé. Surtout Gallagher a un camp d'entraînement terrible. Donc, quand je vous dis terrible, terrible, il suit plus, ça en est rendu triste. Bon, je sais que je suis pas le plus grand. Bon, tout le monde sait que je suis pas le plus grand fan de Gallagher, mais même l'an passé, il avait connu quand même un bon camp d'entraînement, puis il avait quand même bien démarré en début de saison. Le seul problème l'an passé, c'est que c'est la production offensive de Gallagher qui avait commencé à diminuer. Mais là, là c'est rendu pire. Là. T'as l'impression qu'après chaque présence sur la glace, il est complètement essoufflé, ses jambes ne suivent plus. Ça les rend du triste là, pour vrai. Là. Je me demande quasiment si sa carrière n'est pas en jeu cette saison. Là. C'est pour vous dire à quel point c'est rendu difficile. Puis côté Joel Armia, encore une fois, ça fait mal. Là, pour moi, il prive. Il vole la place à un jeune joueur à cause de son contrat. Là.
Ben, honnêtement, pas nécessairement. Parce que Joel Armia, la production qu'il amène, oui, ça vaut pas son contrat, mais. Sur une troisième, quatrième ligne, c'est parfait. Le problème, son contrat. Il est trop
bien. Je ne sais pas si c'est vraiment parfait pour une équipe en reconstruction en ce moment. Mettons, il serait sur un quatrième trio à un endroit qui compétitionne en ce moment. Mm-hmm. Je pense qu'il pourrait faire son travail comme il l'a fait en 2021 pendant les séries. Il avait eu une très bonne série. Mm-hmm. Mais je pense que le point pour l'instant, c'est plus il y a l'Armia. Dans une équipe en reconstruction en ce moment, en plus du salaire qui nous empêche de faire des échanges à la Monahan l'an passé et des affaires comme ça, parce qu'il je pense qu'il se fait payer environ 3,4 millions, quelque chose comme ça, pour 3 ans ou 2 ans encore. Mm-hmm. C'est vrai qu'il vole un peu, qu'il prend un peu la place de peut-être un Ilonen à la droite ou quelque chose comme ça. Ils se sentent un peu obligés de faire jouer Armia à cause de son contrat. Ils veulent le mettre de l'avant pour peut-être que quelqu'un soit séduit et qu'ils veulent échanger pour lui. Mais en ce moment, dans une équipe plus jeune qui est en train d'apprendre, Armia, je ne sais pas s'il vraiment a sa place dans l'équipe. Puis c'est certain que c'est un joueur que je pense que.
Ouais, ça a marché avec Hoffman. Ça a marché avec Hoffman.
Nice. Ouais, ça a marché parce que les Penguins voulaient aller chercher Eric Carson. C'est la seule raison pourquoi ça a fonctionné. Parce que si c'était pas de cet échange de Carson, je pense pas que ça aurait fonctionné pour vrai. Là. C'est un miracle en fait. Là. Mais écoute, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. On dirait que Ken Hughes trouve toujours un moyen de réussir à se débarrasser des joueurs non voulus à Montréal. Là. Donc peut-être que Joel Armia va peut-être partir cette saison. Bon, Gallagher, ça, je serais vraiment surpris. Là. Mais t'es pas Armia, c'est peut-être possible. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai peur, c'est que.
On oublie, il y a également Tanner Pearson.
Ouais, mais Tanner Pearson, c'est quand même un joueur d'expérience, un gars qui a quand même gagné la Coupe cette année. T'es. Donc, il pourrait aider la formation à court ou moyen terme, là, ça dépend. Là, mais
ben, il reste un an son contrat.
C'est ça, il reste un an son contrat. Donc, peut-être que ça va être à court terme. Puis, c'est un pari aussi de la part de Ken Hughes. Donc. On verra ce que ça donne, mais.
Tu vas chercher des assets ou à bâtiment des échanges, que ce soit un choix ou un espoir pour Pearson et ou Monahan. Honnêtement, c'est une affaire qu'on peut pas dénier à Kenty, c'est que depuis son arrivée à Montréal, il fait de l'excellent asset management.
Oui, puis c'est ça, c'est un peu c'est ça que j'allais dire, c'est un peu un Monahan. Il arrive, il a ralenti, il a été blessé, puis tout. Mais tu le vois encore que c'est un joueur qui est intelligent. Tu vas peut-être pas le mettre à la droite de Suzuki Caulfield, mais c'est un gars qui, malgré sa vitesse, est capable de suivre le calibre avec son intelligence, avec d'autres. T'sais, c'est pas le gars le plus flamboyant sur la patinoire, mais il va faire le travail sur une quatrième ligne. Je pense pas qu'on va le voir vraiment dans les deux premiers trios du Canadien. Mais un peu comme Anand, je pense que s'il n'est pas blessé, ça va être un joueur qui pourrait ramener quelque chose. Il pourrait se faire money d'ici la date limite des transactions.
Mm-hmm. C'est possible. Bon, moi, messieurs, j'ai une question à vous poser. Vous voyez qui jouer avec sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caulfield? Il y a plusieurs personnes qui ont demandé que Raphaël Harvey-Pinard soit sur le premier trio grâce à ses moments l'an passé avec Suzuki. Avec Kirby Dack qui risque de jouer sur le deuxième trio au centre. Il y a eu l'expérience Josh Anderson que moi, je suis pas vraiment vendu. Puis, évidemment, il y a Sean Monahan. Vous pensez c'est qui va compléter le premier trio? Je vais commencer avec toi, Tom.
Alex Newhook. Ce qu'on avait essayé lors du camp, je pense que c'est le premier match contre les sénateurs, je ne me trompe pas, mais ça se peut que je sois dans le champ là-dessus. Mais honnêtement, j'aime ce qu'il apporte depuis le début du camp. Oui, je pense que Saint-Louis a dit qu'il voulait essayer au centre, mais je pense qu'il pourrait apporter un beau complément à Caulfield et Suzuki. Mais je pense que tout son année, à moins que le Canadien trouve une combinaison qui marche vraiment, je pense que ça va être plus un six pour trouver vraiment la combinaison gagnante. C'est sûr où ce qu'on voulait essayer Slav cette année. Parce que on s'entend, je pense que le Canadien l'a pris pour qu'il puisse complémenter ces deux joueurs-là. Sinon, honnêtement, je vois pas c'est quoi le but de prendre Slavkovski. Je pense que ça va être un six tout au long de la saison. Mais je pense que pour commencer l'année, je serais pas surpris de voir Newhook prendre cette personne.
Mm-hmm. Ben, moi, je dirais aussi c'est soit Monahan, soit Newhook, puis j'enverrais l'autre jouer avec Kirby Dach sur le deuxième trio parce que Dach éprouve de nombreuses difficultés au centre. Donc, il pourrait engaucher en Monahan ou Newhook pourrait un peu venir alléger la demande puis le travail pour Kirby Dach qui a déjà de la difficulté sur son côté fort. Fait que, côté, mettons, il y a des mises en jeu défensives à la gauche. Monahan, il est extrêmement fiable au niveau des mises en jeu. Newhook, il est un peu. Il apprend encore aussi. Mais au moins, c'est un gars qui va être de son côté fort, un gars qui va encore pouvoir apprendre, qui va pas prendre les grosses mises en jeu quand nécessairement le Canadien est pris dans leur territoire, des choses comme ça. Puis moi, sur le premier trio, c'est ça. J'enverrais Monahan ou Newhook. Je pense que Monahan a prouvé l'an passé qu'il y a encore quelque chose dans le réservoir, qu'il peut encore en donner. Puis pour Newhook, je pense que c'est pas le plus gros joueur, mais il joue comme un joueur qui est beaucoup plus costaud. Beaucoup plus costaud qui aussi amène beaucoup plus de rapidité que Monahan. Fait que je pense qu'on va essayer vraiment les deux puis voir c'est quoi le meilleur fit pour d'ici, mettons, décembre, avoir un trio plus régulier, un coéquipier plus régulier pour Caulfield et Suzuki. Ouais.
Moi, je pense que je vais chercher Monahan jouer sur le côté gauche avec Suzuki et Caulfield sur le premier trio parce que l'affaire avec Newhook, c'est que Newhook, c'est pas un gros bonhomme. Puis déjà que t'as Nick Suzuki et Caulfield qui sont pas des formes géants, moi je pense que ça peut-être que ça handicaperait le Canadien Montréal d'avoir trois joueurs du même gabarit sur le même trio. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de la misère à avoir Newhook là. Un peu comme ça, c'est la même chose en passant pour Harvey Pinard aussi. Malgré qu'Harvey Pinard, on le sait, il y a beaucoup moins de talent Alex Newhook et Sean Monahan. Donc, c'est pour ça que je verrais Sean Monahan jouer ce premier trio. Puis après, Sean Monahan, l'an passé, il a quand même eu un bon début de saison en jouant avec ces deux-là. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, peut-être voir Newhook jouer à l'aile sur le premier trio. Pas sur le premier trio, mais sur le deuxième trio avec Kirby Dach et Josh Anderson. ça pourrait fonctionner aussi. Mais moi, ce qui est clair, c'est que je ne vois pas Josh Anderson jouer sur le premier trio. Aucune chance. Je trouve qu'il est pas assez intelligent. Son intelligence du jeu est pas exceptionnelle. Il est trop inconstant.
Il nuit plus que d'autres choses. C'est comme un trou noir de talent.
Wow. C'est fou quand même comme comparaison, toi, je ne m'attendais pas à ça. Peux-tu me préciser sur le trou noir du talent, s'il te plaît?
Ben, en fond, Anderson, c'est que quand il joue avec Soucy et Caulfield, c'est comme si il descendait de la ligne avec lui. Je sais
que mais il tue rêve, beaucoup, mais... je pense que c'est. Il tue beaucoup de jeux. Il n'est pas assez créatif pour. Il a des bonnes habiletés, rapide. Il a un bon tir quand il manque pas le filet. Mais je pense qu'il n'est pas assez créatif. Il n'a pas une assez bonne vision du jeu pour pouvoir jouer avec deux joueurs tellement intelligents, Caulfield et Suzuki. Je pense que c'est un peu là qui est bien la métaphore.
Il descend la ligne à son niveau. C'est ça le problème avec Anderson au lieu d'élever son jeu.
C'est triste. Dis de même, je comprends. Mais c'est quand même triste de dire que le pauvre Josh Anderson
a quand même. Anderson a un rôle sur une équipe gagnante.
Il serait tout ça sur troisième trio.
Son rôle, c'est pas être sur le premier trio.
Honnêtement, je l'ai aimé avec New York. Je sais pas si ça va être le deuxième, troisième trio, mais je pense que c'est deux trucs qui vont un peu alterner. Là. Il va pas vraiment avoir de deuxième trio, troisième trio définitif. Mais c'est deux joueurs tellement rapides qui. C'est New York qui a définitivement plus d'habileté personnelle, d'habileté comme ça, mais je pense que c'est deux joueurs qui peuvent. Bien se compléter dans leurs habiletés et qui peuvent se suivre sur la glace en termes de rapidité.
OK. Mais si je comprends bien, les gars, d'après ce que vous venez de dire, vous voyez Stafkovski avoir un rôle top 9, mais pas top 6. Vous voyez pas Stafkovski jouer peut-être sur le deuxième trio ou même sur le premier trio cette saison, là, si je comprends bien.
Ben, je suis pas prêt à dire pour la saison complète, mais présentement, là, contre Toronto mercredi. Ça ne fera pas sa place sur le top 6.
Honnêtement, moi j'ai dit jamais New York avec Anderson. Je pense que pour l'instant, il a montré des bons flashs. Ses meilleurs flashs en pré-saison, c'était avec Doc, définitivement. Je pense que ça pourrait être un allié long terme à Doc. Pour l'instant, je ne sais pas encore s'il va commencer dans le top 6. Je ne sais pas si il jouerait contre une trop bonne compétition pour le Caleb qui est en ce moment. Ça pourrait le nuire un peu, mais je pense que j'aimerais le voir long terme. Je ne sais pas si ça va être au début de la saison, mais j'aimerais le voir qu'on le laisse avec un gars comme Kirby Doc, qui est vraiment intelligent, qui est un gros bonhomme aussi, qui va être difficile à jouer contre. Mais pour l'instant, c'est sûr, si c'est pas top 9, ça va être à Laval, parce que je ne veux pas le voir jouer 8 minutes, 10 minutes, comme l'année passée, on le voyait quelques fois. Donc, j'aimerais le voir jouer top 6 J'aimerais qu'on lui donne l'opportunité. Je ne sais pas s'il est prêt encore au début de la saison parce que, comme on a dit, il n'a pas joué depuis janvier. Mais c'est sûr que j'aimerais qu'on lui donne l'opportunité.
Mais ça, moi, je suis assuré qu'il va en avoir une opportunité au cours de la saison, mais présentement, il n'est pas prêt.
Ouais, mais c'est vrai que moi non plus, je ne serais pas fan de voir Stafkovski jouer avec Armia ou Jake Evans. Je ne pense pas que c'est ça son rôle. Je ne pense pas que ça l'aiderait pour son développement, puis que ce serait. Puis si ça arrive, clairement que Laval serait une meilleure option pour lui. Parce que s'il se retrouve à jouer avec des joueurs qui sont des joueurs qui jouent des minutes défensives, on va se dire, là, souvent à désavantage numérique, ou jouer contre des moins bonnes lignes, puis surtout jouer contre des joueurs un peu plus robustes puis défensifs, je vois pas Stafkovski jouer dans ce style de jeu-là parce que. Au final, c'est supposé être un marqueur, c'est un joueur qui était quand même premier choix total. Puis, je m'excuse, mais si on commence à voir Stafkovski avoir autant de la misère qu'il en a passé, ça va être problématique. Puis peut-être qu'il serait mieux pour lui de jouer à l'avant. Puis, honnêtement, ça lui ferait plus grand bien là, si ça arrive parce que on s'attend pour dire que l'année passée, il n'était pas prêt. Puis, oui, Tom.
Mais tu tombes jamais en rushant pas ton espoir. Même si c'est le premier show overall, s'il n'est pas pris, il n'est pas pris.
Ben, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je pense que. Moi j'aimerais ça qu'il joue des minutes top 6. Puis comme Greg a dit, c'est vrai que ce serait intéressant de l'avoir joué avec Kirby Dyke parce que durant la pré-saison, il a quand même eu des bons moments en jouant avec Big Tag. Donc, ce serait intéressant. Bon, j'ai deux dernières choses. La première, j'ai effleuré le sujet, mais là, Brendan Gallagher, le camp d'entraînement, c'est... je ne sais pas, je suis le seul à avoir remarqué que c'était si difficile que ça.
Parce
que
c'est non, normal, ben, écoute, il suit plus. Là. Il y avait la langue à terre après quelques chiffres. Bon, c'est sûr que Gallagher, son style de jeu, on le sait depuis qu'il est arrivé dans l'NFL, c'est pas un système de jeu qui fait pour durer longtemps. Puis je pense qu'on est rendu à cette période-là. Par contre, je pense qu'il peut avoir un impact sur une équipe. Peut-être pas en jouant chaque match, mais peut-être comme 13e attaquant.
Ouais, ben. Je sais pas, honnêtement. C'est parce que le problème, c'est son contrat. Tu peux pas mettre un gars qui gagne 6,5 millions dans les estrades la moitié du temps. C'est
ouais, juste illogique. C'est pas un vrai 6,5 millions. Là. Présentement, son contrat, c'est un 6,5 millions pour service rendu. C'est pas un joueur qui vaut proche de 6,5 millions. Dis-moi, je pense que peu importe ton salaire, t'as beau gagner 2 millions ou 10 millions, si tu produis pas, t'as pas ta place, tu suis plus, t'as pas d'affaires dans le line-up.
Mais tu sais, je pense en termes de principe, il y a une équipe qui veut bâtir la culture. Je pense qu'on va pas être prêt à envoyer un gars comme Gallagher qui porte une lettre sur son chandail et tout ça. Tu sais, même si peut-être qu'il le mérite d'être sur la passoire de temps en temps, je pense que juste ça se fait pas dans le monde du hockey en ce moment. Tu sais, je suis d'accord qu'il va pas mériter sa place. Il devrait pas mériter sa place 82 soirs par année. Mais je pense qu'on va juste pas avoir le culot, j'imagine, de passer ce genre de message-là à un gars qui a tellement donné au cours de la dernière décennie à Montréal.
Ouais. C'est quand même intéressant. Puis c'est triste que constat. Comme j'ai dit l'année passée, bon, écoute, je sais que je suis pas le plus grand fan de ce joueur-là, mais l'année passée, il avait quand même eu un bon début de saison. On savait que sa production commençait à chuter. Mais là, le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression que là, c'est pire que ça a été au cours des dernières années. Parce que, bon, même dans son prime, Brendan Gallagher, ça n'a jamais été un grand patineur. C'est pas un gars qui a la meilleure vision du jeu. C'est un joueur qui était combatif, qui donnait son 100% après chaque chiffre. Même qu'on le voyait souvent complètement essoufflé. Puis, même là, il jouait quand même bien, il réussissait quand même à marquer 30 buts, puis ça a aidé aussi quand il jouait avec Dano et Thomas Tatar, puis malheureusement, non seulement il n'y a plus aucun de ces deux joueurs-là, mais en plus, c'est juste triste. Non seulement ses jambes ne suivent plus, mais j'ai l'impression que c'est son corps complet qui ne suit plus. Donc là, ça va être intéressant de voir l'utilisation de Martin Saint-Louis, puis écoute, surtout de voir si il continue à jouer de la sorte, est-ce que Martin Saint-Louis va avoir le courage de le mettre dans les estrades?
De toute façon, il va avoir des blessés,
sûrement qu'il va se blesser lui-même, fait.
Ben oui.
Puis, il va se blesser une main d'ici novembre, fait. On va pas avoir.
Ouais, puis déjà, tu as Dvorak qui commence la saison blessée. Donc, il va avoir quand même de la passe aux jeunes, selon moi, même si Armia et Gallagher sont dans la formation.
Ok. En parlant de blessés, messieurs, on va finir là-dessus pour le Canadien Montréal. Il y aurait
peut-être un autre point avant de terminer, mais tu peux y aller.
Non, mais vas-y, c'est quoi l'autre point
que tu voulais? La situation des gardiens, vous faites quoi avec Keaton?
Ben, Keaton, il retourne à Laval, c'est pas
si... Ouais, mais est-ce que vous prenez le risque de perdre au ballotage?
Ben, au point qu'il en est rendu, moi, je vois pas l'intérêt de le garder à Montréal. Moi, je prendrais le risque, je pense pas qu'il y a une équipe qui... Parce qu'il aurait besoin de Kaden Primo maintenant. De toute façon, il n'est pas au niveau LNH, à mon avis.
Ben tu sais, oui, il y a des équipes. T'aimes pas Billy. À ce moment-ci de la saison, il y a des équipes qui cherchent les gardiens tout le temps. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je serais prêt à commencer la saison avec un ménage à trois. Puis, quitte à ce que Pezzetta, par exemple, s'en aille à Laval. Ou partir au ballotage. Puis quitte à redescendre Primo un ben, plus tard dans la saison, quand ça va être plus safe, disons, de renvoyer à Laval.
Ouais, ben, moi, je vois quand même le tandem Montembeau-Allen. Bon, là, c'est intéressant de voir, comme tu viens de mentionner, Tom, si, par exemple, le Canadien a peur de perdre Primo au balotage, rendu là, c'est mieux d'essayer d'échanger Jack Allen là, au point qu'il s'en est rendu. Là. Mais moi, je pense que Primo va commencer l'année à Laval. Ça, c'est, je pense que c'est encore le cas.
Ben, la façon que je le vois, c'est Primo est rendu à 24 ans. Il a été repêché en 7e ronde. Je pense que, tu sais, un gardien numéro 1, calibre Ligue américaine, disons, on ne sait pas encore vraiment. Il n'a pas encore vraiment prouvé que c'est un gardien de la Ligue nationale jusqu'à maintenant, selon moi.
Mais en même temps, c'est un gardien, ça prend toujours plus de temps.
C'est sûr. Se
développer que... Non, mais je veux dire, dans ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, je veux dire, dans sa carrière, en 21 parties, il y a 871 de taux d'efficacité. Donc, je pense qu'il n'est juste pas encore prouvé. C'est juste de dire qu'il n'a pas encore prouvé qu'il mérite d'être dans la Ligue nationale en ce moment. Il y a eu un camp correct, probablement le meilleur des trois gardiens. Mais je pense que c'est une excellente valeur en termes de choix de 7e ronde. Mais je pense qu'à ce stade-ci, je serais prêt à prendre le risque de le mettre au balotage pour pouvoir garder un extra attaquant de plus au cas où est-ce qu'il y a des blessures ou des trucs comme ça. Parce que.
Ouais, mais au pire, mettons Pezzetta qui perd sa place. Des Pezzetta, super, c'est pas dramatique, là, même que Pezzetta n'a pas tant sa place que Canadien.
Il n'y a pas sa place du tout, mais c'est juste que là.
Je préfère rappeler un jeune si jamais t'as besoin de joueurs plus tard. Là,
mettons que tu gardes Primo dans le grand club. C'est quoi le. Comment tu te sépares ça? Parce que tu sais, les gars comme Montembeau, ils vont pas vouloir. Mettons, ils essaient de. C'est une année de contrat. C'est pas idéal de le faire jouer une partie sur trois.
Non, mais je dis pas de faire chacun son tour
non, mais des fois,
pour avoir sa partie.
Ouais.
Je sais pas, mais je trouve que c'est juste ces trois gardiens, quand les trois sont en santé, c'est beaucoup à transporter. Mm-hmm. T'sais, la charge de travail est difficile à diviser. Mm-hmm. Tant qu'avoir Primo qui est encore en développement, jouer une partie sur cinq dans la Grande Ligue, je serais prêt à risquer à ce qu'il soit un partant de premier plan, un bon gardien de la Ligue américaine, au risque de le perdre au balotage.
Mm-hmm. Mais Tom, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi tu vois, pourquoi tu penses que Primo va partir au balotage? Est-ce que tu es vraiment persuadé que Primo peut être un gardien de but ailleurs dans l'extérieur de hockey? Est-ce que tu es persuadé que Primo est un gardien de but LNH?
Honnêtement, je pense que il est encore trop tôt pour jeter la serviette sur lui. Puis je pense que si il tombe sur au balotage, il y a des équipes qui seraient prêtes à prendre une chance et qui auraient de la place pour lui.
Moi, je ne sais pas. Moi, je pense pas que, comme Greg l'a mentionné, en fait, je suis du même avec lui. Je pense pas que Kadim Primo a prouvé qu'il pouvait être un gardien numéro 1, voire, mais pas oublie gardien numéro 1, là, mais. Qui était un gardien de but.
Non, je ne dis pas que c'est.
Le futur
gardien d'avenir gagnant du Vizina non plus.
Mais... Non, c'est sûr. Mais moi, pour moi, je pense. Puis encore une fois, est-ce que vous voyez des équipes avoir trois gardiens de but dans la formation dans n'importe quelle équipe d'Inter d'hockey? Non. Donc, je vois pas l'utilité d'avoir trois gardiens de but dans ta formation, surtout que le gardien de but. Le gardien de but a besoin d'une chose qui est hyper importante pour ses performances, puis c'est la confiance. Puis pour avoir la confiance, il faut que tu joues. Donc, si tu décides d'avoir trois gardiens de but, ben là, il va y avoir un des deux gardiens de but qui, entre Montembeau, ben pas entre Montembeau, mais je dirais surtout entre Allen et Primo qui vont pas avoir de confiance. Puis là, si Allen connaît un mauvais début de saison, puis même chose avec Primo, ben là, on va juste ramasser avec Montembeau qui va juste jouer plus de matchs. Puis en tout cas, c'est juste pour vous dire que ça ne fonctionnera pas.
C'est ça, parce que tu peux échanger Allen. Dans ce cas-là, je suis tout à fait prêt à avoir Primo comme gardien numéro 2 qui joue de temps en temps derrière Montembeau. Mais à la fin aussi, c'est que tu gardes Primo en haut, tu le fais jouer, mettons, une partie sur 4, une partie sur 5, une partie sur 6, whatever. Puis dans cette partie-là, il y a un mauvais match, il alloue 6 buts, 5 buts. Puis tu sais, c'est juste une mauvaise prestation. Après ça, il attend encore 2-3 semaines avant sa prochaine partie. Ouais. C'est pas vraiment comme ça qu'il va se développer, selon moi. C'est pas comme ça qu'il va bâtir sa confiance non plus.
Voilà.
Vous amenez des bons points.
Tout est dit. Moi, je pense qu'ils vont encore en tandem Samuel Montembeau et PJ Callen comme gardien de but numéro 2. Là. Puis je vois Primo gardien numéro 1 à Laval. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça va être la même chose que l'an passé, puis la même chose qu'il y a 2 ans. Ça va ressembler pas mal à ça. À moins d'une surprise, à moins que Jake Allen parte, peut-être que là, je verrai Primo être gardien numéro 2 derrière Montembeau, mais pour l'instant, moi, je vois la saison. Je vois le Canadien député comme ça.
Un que j'ai hâte de voir à l'avant, par contre, c'est Dobesh. Ça a connu une carrière universitaire quand même assez prometteur. Je ne me trompe pas, je pense qu'il n'a pas joué à l'avant en fin de saison, mais devrait quand même avoir un temps de jeu respectable cette année. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à l'avant.
Ouais, ben écoute, moi aussi j'ai hâte, mais la saison est encore jeune, donc on verra ce qui se passe du côté du Rocket de Laval. Bon, messieurs, la dernière question est assez simple. Vous voyez les Canadiens terminer combien dans le classement général? Je vais commencer avec toi, Tom.
Ben, je l'ai dit plus tôt, là, à peu près dans les mêmes eaux que l'an dernier, là, 28e, 27e. Là, parce que tu regardes ça présentement, dans les nationales, les équipes dans ces rangs-là se sont améliorées ou sont restées à peu près au même rang. Columbus, ça va être bien meilleur. Chicago sont améliorés avec Bédard, évidemment. San Jose, ça va être difficile. Anaheim, soit amélioré un petit peu, mais je vois pas sortir du trou. Philadelphie devrait descendre, alors que Arizona devrait monter de quelques rangs. Donc, je pense que le Canadien, c'est quand même amélioré, mais pas assez pour faire un gros bon classement.
Ben, personnellement, je pense que tu regardes sur papier, le Canadien, c'est pas extrêmement amélioré depuis l'an passé. On a fait l'addition de Newhook. Sinon, il n'y a rien de vraiment de majeur. Puis Newhook, c'est un gars qui l'an passé a marqué 30 points. Peut-être là, on va s'attendre à la progression avec un plus grand temps de jeu, des minutes en attaque massive puis tout ça. Mais la seule avantage qu'on a par rapport à l'an passé, c'est que nos jeunes joueurs ont pris un an de maturité, un an d'expérience. Puis aussi qu'on tourne une nouvelle page, que là, pas mal tout le monde est en santé. T'sais, mettons, l'an passé, Caulfield n'aurait pas manqué la moitié de la saison. Peut-être qu'on n'aurait pas fini 5e dernier, on aurait fini 8e dernier ou quelque chose comme ça. T'sais, cette année, si Caulfield marque 40, 45, Suzuki a 70, 75 points, même chose pour Tac, des trucs comme ça. T'sais, là, on va pouvoir penser aussi qu'on pourrait monter, mettons, 24e ou quelque chose comme ça. On pourrait avoir le 10e show total, des choses comme ça. Puis un autre effet, quelque chose qui va avoir un grand impact sur le Canadien, c'est est-ce que Montembeau va être en mesure de voler autant de parties qu'il a fait, est-ce qu'il va être capable de jouer aussi bien qu'il l'a fait l'année dernière, parce que je pense que sans lui, sans des prestations, c'était pas le gars le plus constant, mais il était capable de voler, il a volé une couple de matchs. Je pense qu'on aurait pu finir un peu plus bas, avoir un meilleur choix, etc. Donc, c'est rare qu'on va se plaindre des bonnes performances d'un gardien. Mais quand un gars comme Connor Bedard, Adam Fantilli est en jeu, toutes les normes sont un peu remises. Toutes les normes sont remises vraiment. Fait,
même là, cette année, où il n'y a pas de Connor Bedard, c'est quand même des très bons espoirs qui s'en viennent au prochain
week. C'est ça. Fait que si, ça va dépendre aussi vraiment de comment nos gardiens vont se comporter.
Mm-hmm. Donc, Greg, tu vois le Canadien terminer combien au final?
Je veux dire, dans environ 25e, là. Peut-être 7e à partir du bas en termes de choix et repêchage.
Ouais, dans ces eaux-là. Je suis à peu près de. Je suis 100% du même avis que Greg là-dessus. Je vois le Canadien t'emmener 25e. Moi, je me rappelle surtout du début de saison l'année passée où les Canadiens se débrouillaient quand même assez bien avec tout le monde en santé. Là, c'était un Monahan qui reste en santé. C'était un Cole Café surtout qui reste en santé. Puis qui, comme Greg l'a mentionné, qui marque au moins 40 buts. C'est sûr que le Canadien va s'améliorer. Il ne faut pas oublier que Malcolm Matheson aussi a raté beaucoup de rencontres l'année passée. Donc déjà, avoir Matheson pour ce début de saison-là, ça va grandement aider le Canadien.
Et Goulet, qui est probablement le deuxième meilleur défenseur à ce stade-ci de la reconstruction. Goulet qui a manqué 38 parties, je pense, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je pense qu'on peut juste s'améliorer en termes d'équipe. Je ne sais pas si on va assez s'améliorer pour se classer en avant des autres équipes qui se sont aussi améliorées comme Arizona. Mais ouais, je pense que sur la glace, on va avoir un meilleur produit.
Moi je suis pas mal de la vie. Je pense que ça peut arriver. Bon, je vois quand même le Canadien terminer dernier de la division Atlantique. On va en parler un peu plus tard. Là, mais moi, le seul problème, c'est ça, c'est que la division du Canadien est tellement forte que chaque ça va être là que ça va être plus difficile à gagner des matchs. Je pense que si le Canadien joue contre les autres divisions, ça devrait mieux se passer. Surtout que quand on voit des équipes comme Buffalo, Ottawa qui sont en ascension, une équipe, encore une fois, comme Toronto qui est encore bonne, les Panthers de Floride qui ont fait une finale de la Coupe Stanley l'an passé, bon, Tampa Bay qui ont quand même un blessé assez important à André Vasilevski, là, ça déjà là, c'est quelque chose de pas négligé. Même les Blues de Boston qui, bon, malgré le départ de David Krejci et surtout de Patrice Bergeron à la retraite, reste quand même une équipe redoutable, notamment avec Pastrnak, avec leur nouveau capitaine Brad Marchand aussi, puis Charlie, puis la belle défense
qui est McAvoy.
Avec McAvoy, puis un peu ses hommes, oui. Mm-hmm. Je sais pas si Tom, tu voulais rajouter quelque chose?
Non.
Ok, tu veux juste confirmer? Ok, c'est bon, merci.
Moi, je confirmais que Boston va être quand même une équipe qui peut faire des dommages.
Ouais, ben bon. C'est pas en allant chercher Jess Van Misdijk, puis. Puis Milan Lucic, que tu vas créer du dommage, là, parce que ça, c'est...
Non, c'est... Mais bon.
Avant Dieu, c'est pas le pire personnel. Là, ça, c'est plus vivre dans le passé, là, mais ça, c'est autre chose.
C'est une conversation pour une autre fois, ça.
Ouais, mais écoute, messieurs, là, je voulais qu'on parle rapidement de la saison morte. Pour vous, avec tout ce qui s'est passé, notamment l'échange d'Eric Carson, la saga de Mike Badcock aussi, qu'on n'en a pas parlé, que ça aussi, ça a créé beaucoup d'écho à travers l'intérieur d'hockey. Pour vous, qu'est-ce qui a marqué le plus cette saison de mort? Je vais commencer avec toi, Tom.
Qu'est-ce qui a marqué le plus? C'est une bonne question, honnêtement. Ça a beaucoup brassé. Comme tu as dit, bon, il y a eu des échanges de Carlson. Je pense que Pittsburgh, avec cet échange-là, essaye encore de squeezer un petit 2-3 ans de fenêtre, mais ça... Je ne veux pas être plate doux, là, mais profite-en parce que après ça va être difficile.
T'inquiète, c'est la seule fois que j'ai envie de dire, t'inquiète.
Mais c'est autre que ça. Ce que j'ai remarqué beaucoup dans les contrats des agents libres, parce que c'est des contrats très courts qui ont été signés cet été. Même pour des gros noms, c'est pour des contrats d'un an, deux ans. Je pense que c'est à cause. Entre autres que le cap salarial va risquer de monter dans les prochaines années. D'ailleurs, Batman a annoncé au propriétaire cette semaine que l'année prochaine, ça devrait être autour de 87-88 millions. Donc, je pense que les contrats devraient monter la saison prochaine, surtout qu'il va y avoir des plus gros noms, je pense, du côté des agents libres, dont Steven Stamkos. Et on aurait pu avoir Austin Matthews, mais il a décidé de rester à Toronto.
C'est ça, c'est aussi qu'il n'y avait pas cette saison non, qu'il n'y avait pas vraiment de gros noms disponibles tant que ça en termes de joueurs autonomes.
Ouais, écoute, il y avait Patrick Kane, mais bon, avec sa blessure.
On ne sait pas encore vraiment.
Ouais, il n'est pas encore signé.
Ouais, on ne sait même pas, il va jouer encore. Il va jouer cette saison.
Vous voyez où pour la fin?
Comment?
Vous voyez où, Patrick King?
Moi, je le vois retourner chez lui à Buffalo.
Ouais, soit je pense que c'est Buffalo. Moi aussi. Je pense qu'il y a des rumeurs aussi pour Colorado. Ils ont de la place avec encore... Ils ont des signatures low risk, high reward, avec des gars comme Drouin et Tatar, des légendes du Canadien. Ouais. Donc,
Landeskog aussi, surtout, qui va rester encore toute la saison cette année. Ça aussi, c'est...
Ouais, ça fait mal.
Mais c'est ça, fait que je pense qu'ils ont de la place à l'aile pour un gars comme Kane s'il le désire, puis si Kane n'est pas trop demandant. Puis voilà. Puis moi, si on est rendu là, c'est difficile à dire qu'est-ce qui a été vraiment le fait saillant de la saison note. Je pense que, comme j'ai dit, il n'y avait pas vraiment de gros noms en termes de joueurs autonomes. Je pense que quelque chose qui est passé un peu sous le radar, c'est les échanges de Toffoli, qui a quand même eu une très bonne saison à passer avec Calgary. Calgary qui on pensait aller un peu à la reconstruction, finalement, pas vraiment. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, mais ils sont un peu pris dans la médiocrité depuis trop d'années maintenant. Puis sinon, un autre mouvement, un autre échange qui est passé un peu sous le radar, je pense, de Brincat, va pouvoir finalement avoir un rôle de premier plan, de premier trio encore des trois. Donc, peut-être un gars qui va pouvoir en surprendre. T'sais, il était un peu décevant à Ottawa. Donc là, à Détroit, il arrive, il est le meilleur ailier, surtout à gauche, là, même si c'est un droitier. Je pense qu'il va pouvoir faire des dégâts là, avec Larkin au centre.
Mm-hmm. Puis écoute aussi, il y a quand même eu le repêchage cette année qui était quand même
un repêchage exceptionnel. Ça fait longtemps, là, parce qu'on n'en parle plus, mais Dubois a aidé. C'est un autre échange qui a marqué un peu la dernière année, puis je dirais même la saison morte également.
Ben, surtout à Montréal, parce qu'il y a plusieurs rumeurs qui envoyaient Pierre-Luc Dubois à ce côté de Montréal. Bon, c'est une bonne nouvelle que Pierre-Luc Dubois ne soit pas à Montréal, là, surtout avec le contrat qu'il a eu. Je pense pas que ça aurait été l'idéal d'avoir un Pierre-Luc Dubois. Voir un Québécois avec un gros contrat comme ça à Montréal, je sais pas. Moi, je suis un peu réticent par rapport à ça.
On l'a vu avec Trouin, à quel point ça peut peser sur les épaules un gros contrat. C'est la pression d'être Québécois à Montréal avec un joueur, un contrat de premier plan. Mm-hmm. Honnêtement, je pense que c'est pas nécessairement la pire chose, surtout quand tu regardes aussi le prix que LA a payé à Winnipeg pour l'avoir. Je pense pas que le Canadien était prêt à débourser ça.
Non, c'est sûr. En même temps, ils ont donné Alex Aifala. Ils ont surtout donné Gabriel Velarde qui pour moi est un excellent jeune joueur. Là. Donc, je pense qu'il va être très bon du côté de Winnipeg. Puis aussi, je pense qu'on donne un choix de premier rang plus deux autres espoirs. Donc, c'est quand même beaucoup là, pour Pierre-Luc Dubois. Surtout pour un joueur qu'il ne faut pas l'oublier. Il est rendu déjà sa troisième équipe en 6 ans, je crois, dans les séries d'hockey. Donc, c'est pas rien. Puis,
8 ans.
Non, il est arrivé 2017-2018. Fait qu'attends, si on fait le calcul.
Ouais, il n'avait pas fait avec sa première année, mais
Non, il fait sa deuxième.
Ouais, il est retourné avec l'Armada.
Ouais, je pense. Ouais, donc, moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'il ne soit pas à Montréal, surtout avec les prix que les Kings ont donné non seulement pour contre Dubois, mais surtout aussi pour les joueurs donnés à Winnipeg. C'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal de ne pas avoir autant déboursé pour les services de Dubois. Puis aussi, l'autre affaire aussi que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette saison morte, c'est même le contrat de Travis Zegras. Je ne sais pas c'est qui l'agent de Travis Zegras, mais Zegras devrait le congédier. Parce que ça n'a pas de bon sens qu'il gagne moins qu'Alex Killorn. Vous vous rendez compte, là? Genre, je sais que. Je sais que Travis Zegras n'a pas la meilleure réputation dans une salle de hockey. Mais un joueur avec ce talent-là n'est pas supposé d'avoir seulement un contrat 3 ans à peine 6 millions de dollars. Il n'est même pas à 6 millions, il est comme à 5 millions 800 000, quelque chose d'environ comme ça. Là. Donc, c'est quand même assez spectaculaire d'avoir un joueur talentueux comme Zegras obtenait peu là, de la part des Ducks d'Anaheim. C'est peut-être une bonne nouvelle pour les Ducks, mais...
C'est un contrat pont. Je pense que les Ducks... Ils veulent peut-être que Zegras en prouve plus. Mm-hmm. Parce que honnêtement, oui, Zegras est bon. Mais je pense que le fait qu'il soit flashy, ça fait en sorte que ça permet de masquer un peu le fait qu'il. C'est légèrement, j'ai goûté, décevant un peu. Pas décevant, mais je sais pas trop comment dire. Comment que je pourrais dire ça? C'est un peu en deçà des attentes du côté de Zegras.
Ben moi, honnêtement, si je suis un fan d'Anaheim, je suis pas vraiment content de comment on a géré ça du tout. Là. Je sais que c'est pas beaucoup d'argent qu'on a laissé pour Zegras, mais Drysdale, on avait tout l'argent au monde pendant tout l'été pour les payer. On a attendu que... Je sais pas pourquoi trop on a attendu aussi tard et on y a manqué pas mal toute la pré-saison. C'est des contrats de 3 ans. Zegras va être encore en... Il va encore avoir, il va être un RFA, un joueur autonome avec restriction au terme de ce contrat-là, mais pour Drysdale, il va tomber avec l'autonomie complète. Fait que tu peux le perdre pour rien dans 3 ans, ce qui n'est pas idéal. Puis pour Zegras, je veux dire, tu sais, lui non plus, dans 3 ans, il va sûrement avoir un peu moins d'argent à dépenser. T'sais, ça va être aussi la fin du contrat de Leo Carlson, probablement, s'il joue cette année, ce qu'il est supposé faire. D'autres gars comme ça, McTavish, vont être signés. On va avoir moins d'argent pour signer Zegras. Je pense que j'aurais pris la chance de le signer un peu plus longtemps pour un peu plus d'argent, maintenant qu'on a l'argent pour le faire. Parce que dans 3 ans, peut-être qu'il va demander plus si, justement, il prouve qu'il est un joueur de premier plan.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est encore plus incompréhensible quand tu vois le directeur général des Ducks donner un contrat de 3 ans à 6,25 à Alex Killorn, alors que Killorn a 32 ans. T'sais, c'est pour ça que je dis qu'il y a un manque de cohérence du côté des Ducks d'Anaheim pour ce point-là, puis surtout tout ce que Greg vient de dire. Puis, est-ce que tu vas te retrouver dans cette même situation un peu comme, je vais ramener un exemple lointain, mais Canadien Montréal a fait la même chose avec Piqué Subban. Ils ont essayé de lui donner un contrat bridge parce qu'il y avait des problèmes entre guillemets de comportement. Puis Piqué Subban a prouvé, mais par la suite, il a forcé à lui donner un contrat de 8 ans à plus de 9 millions. Est-ce que c'est ça qui pourrait arriver avec Travis Zegras? Qu'est-ce qui se passe si Travis Zegras explose et qu'il devient un joueur de 90 points ou peut-être 100 points? Et Ducks d'Anaheim n'auront pas le choix de payer 8 ans puis peut-être à 10 millions à ce moment-là. Puis même encore pire,
ça va être dans 3 ans, fait il va avoir plus d'argent. Puis rapidement, pour me corriger, Dreisel va pas avoir l'autonomie complète dans 3 ans. Mais ça ne change pas le fait que c'est vraiment...
C'est bizarre.
C'est étrange de le signer pour 3 ans, surtout que ça cohorde. C'est en même temps que la fin du contrat de Carlson, un an après la fin du contrat de McTavish. Pourquoi tu penses que ça n'avait pas beaucoup de sens, selon
toi? Ouais, puis c'est ça qui est assez particulier. Quand tu vois des équipes comme les Devils du New Jersey qui ont donné un contrat de 8 ans à 8 millions à Jack Hughes avant qu'il explose, ça a été la même chose du côté des Sénateurs d'Ottawa avec Tim Stutzla et Brady Tkachuk.
Ted Thompson.
Puis, Canadien Morel vient à peu près de faire la même chose avec Cole Caulfield. Puis pourtant, Zegras a quand même eu des meilleurs débuts que ces 3 joueurs-là, donc, à mon avis. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une question de réputation de Zegras, qui a peut-être une mauvaise réputation au sein de non seulement des Ducks d'Anaheim, mais dans l'excellent hockey, qui fait que c'est pour ça qu'il y a un contrat comme ça. Parce que pour moi, je trouve ça bizarre que. Est-ce que Zegras a moins de talent que ces joueurs-là? Je pense qu'il est pas loin. Là. Il a peut-être moins de talent qu'un Jack Hughes ou un Tim Stutzla, mais il est pas si loin que ça. Là, donc, s'il est capable d'avoir un meilleur comportement sur la glace, moi, je pense que ce gars-là a tout le talent du monde pour réussir, là, vraiment. Là. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu incompréhensible. Pourquoi les Canadiens n'ont pas décidé de prendre un risque et de donner un contrat de 8 à 8 millions? Ça devrait être correct, là, normalement. Là. Puis si jamais il explose pas et qu'il reste un joueur de 70 points, à 8 millions, c'est pas si pire que ça, je trouve. Ça, c'est mon avis personnel là-dessus. Tom, toi, t'as pas l'air d'être en accord avec ça, là.
Ben non, je suis d'accord. Par contre, je pense que ça même se met un peu dans le trouble. Pour les 3 prochaines années. Mais en même temps, ils ont 4 faces pour gérer ça. Donc, je pense qu'il faut dessiner le temps. Je pense qu'il faut dessiner le temps de faire des choses.
Non, c'est sûr. Mais c'est juste que j'ai quand même trouvé ça particulier. Le contrat à Travis Zegras et celui de Jimmy Drysdale aussi. Puis pourquoi ça a pris autant de temps?
Non, c'est surtout ça. Pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi tu abîmes ta relation avec des joueurs comme ça qui forment ton futur pour leur donner, en fin de compte, un contrat de 3 ans comme ça, qui n'avantage pas vraiment personne dans ce que...
Ouais, puis qu'est-ce qui se passe?
Il y aurait eu les moyens de le payer plus cher, puis tu sais, je sais pas, ça avait pas grand sens. J'essaie encore un peu de comprendre, c'était quoi le plan derrière ces contrats-là, comment Pat Verbeek a géré ça. J'ai encore un peu de misère à démêler tout ça, mais je vais lui donner le bénéfice du doute, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les 3 prochaines années à même.
C'est ça, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi si Zegras et Drysdale sont juste écœurés de jouer en AM et demandent une transaction. Les Ducks ne sont pas à l'abri de ça, surtout avec un contrat de 3 ans avec peu d'argent donné à ces deux joueurs-là. Les deux joueurs pourraient faire un peu comme Tkachuk puis Johnny Gaudreau du côté de Calgary, puis juste partir là, aussi. Là. Ça, c'est quand même assez particulier.
Ben, c'est Godrew l'a fait en tant qu'agent libre. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la différence.
Ah, mais c'est ça, ouais, c'est vrai, t'as raison par rapport à ça. Mais surtout Ketchuk, moi je parlais plus.
Plus un cas comme Dubois, mettons, qui dit je vais pas signer avec vous, échangez-moi, sinon je vais juste pas signer.
Comme Ketchuk avait fait également.
Ouais. Mm-hmm.
Ouais, bon les gars, rapidement, on va faire nos pronostics, là, entre guillemets, pour la saison 2023-2024 qui commence pas plus tard que mercredi prochain, avec
mardi.
Ouais, pardon, ouais, c'est vrai. Parce que moi, je pensais au premier match de Connor Bedard qui joue contre Crosby à Pittsburgh. Ça, c'est quand même assez
particulier. Mais je me trompe pas, c'est mardi ce match-là.
Non, c'est mercredi ce match-là, si je me trompe pas. C'est le 10. Je crois. À moins que le 10 soit
mardi. C'est mardi, ça.
Ah, oups, t'as raison. Ça commence pas plus tard qu'un mardi, notamment avec Connor Bedard, comme je viens de mentionner, qui va disputer son premier match à l'extérieur d'hockey contre les Penguins de Pittsburgh et Sidney Crosby. C'est quand même fou que ces deux gars-là, deux talents générationnels s'affrontent dès leur premier match à l'extérieur d'hockey. Je trouve ça un début de saison parfait. Bon, normalement, j'aurais parlé de la division Atlantique. Bon, on peut en parler rapidement, mais. Bon, moi, je vois le Canadien terminer dernier, septième. Là. Moi, je vois pas comment... Il y a peut-être Détroit qui pourrait être pire que le Canadien de Montréal, mais même là, je trouve que Détroit ont une équipe mieux anti que... Ils ont eu deux brain cards, ça, c'est l'ajout. Là, mais t'es... Ah, puis peut-être Petrie aussi. Qui vient d'arriver du côté de Détroit. Mais à part de ça... Moi, du côté de l'Atlantique, là, je pense que je verrais les Leafs terminer premier dans cette division-là, honnêtement. Là. Je trouve que Toronto, l'acquisition de Tyler Bertuzzi, même l'acquisition de Max Domi, je trouve que c'était des bonnes acquisitions, pas chères du côté des Maple Leafs de Toronto. Puis ils vont être utiles pour les Leafs. Surtout que même cette saison, ce qui est assez particulier, c'est que William Nylander va jouer au centre. Donc, est-ce que William Nylander va jouer sur le deuxième trio? Il va jouer sur le troisième trio? T'es, déjà, ça va être intéressant. T'es. Est-ce que John Tavares va jouer à l'aile? Ça m'étonnerait un peu, mais quand même, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, je vois Toronto terminer premier de la division Atlantique. Je vois également Tampa Bay, malgré la blessure de Vasilevski, terminer deuxième parce que je trouve qu'ils ont beaucoup trop de talent, là. Quand tu as joué comme Kucherov, Edmond, Braden Point, Steven Stamkos qui va être à sa dernière année de contrat à Tampa Bay, puis il ne faut pas oublier si Steven Stamkos à sa dernière année de contrat, d'habitude quand un joueur se retrouve à la dernière année de contrat, c'est là qu'il surperforme d'habitude. Même que Stamkos, c'est quand même un joueur exceptionnel, donc je ne serais pas surpris qu'il ait une autre excellente saison. Je ne sais pas si j'ai mentionné Braden Point, tu sais, qui vient d'avoir une saison de 50 buts aussi. Moi, je trouve que la saison de 50 buts de Braden Point est tellement passée sous le silence. C'est quand même spectaculaire. Il s'en catch-up aussi. Donc je vois Tampa Bay terminer deuxième. Je vois aussi les Panthers terminer troisième aussi. Je pense que les Panthers, mettons, si Bobrovsky est capable de continuer cette séquence-là, sur sa séquence de séries éliminatoires, puis là, tu as Spencer Knight qui est de retour aussi. Donc, si Vasilevski joue mal, Spencer Knight pourrait... revenait, puis il a quand même bien paru.
Vasilevski.
Pas Vasilevski, mais. Bobrovsky, ouais. Sergei Bobrovsky, désolé. Désolé, c'est un petit lapsus. Puis, sinon, tu es à Smithsonal, tu sais, comme gardien numéro 2 qui revient, mais tu es quand même une équipe finaliste de la Coupe cette année, donc je vois pas comment ils pourraient terminer au même classement que l'an passé, là, je serais vraiment surpris. Je vois Boston terminer 4e de cette division-là, parce que c'est pas compliqué, mais pour moi, les deux départs de David Krejci, surtout Patrice Bergeron, ça fait trop mal au Bruins de Boston. Ça va faire trop mal. Ceux-là, ils vont peut-être commencer la saison avec Pavel Zaka comme numéro 1. Est-ce que Pavel Zaka peut vraiment être sans numéro 1 dans une équipe compétitive comme celle des Bruins? Je ne suis pas certain non plus. Puis, par la suite, je vois une bataille entre Buffalo et Ottawa. Puis, par la suite, je vois Détroit-Montréal. Montréal terminé dernier. Ça ressemble pas mal à ça pour la division Atlantique.
Moi, de mon côté...
C'est une prédiction. J'ai essayé d'être osé, moi.
Moi, de mon côté... Toronto va terminer au premier rang. Je pense que pour toutes les raisons que tu as dit, les acquisitions, je pense que Toronto va être assez dominant cette saison. Tampa Bay va terminer deuxième. Troisième, petite surprise, Ottawa. Je pense que ils ont bien terminé la saison avec avec Jacob Chychrun dans le line-up. Je pense que Korpisalo va enfin répondre à leurs problèmes devant le filet. Honnêtement, je pense que ça. Et Tarasenko qui vient un peu remplir le même rôle que de Brincat. Je pense que Ottawa, c'est en fin d'année où est-ce qu'ils vont débloquer. Je vois Panthers au quatrième rang. Les blessures en début de saison vont leur faire perdre du terrain. Buffalo vont se battre jusqu'à toute fin pour une place en série au cinquième rang. Boston au sixième rang, les départs leur ont fait trop mal. Ils n'ont pas réussi à bien remplacer. Mm-hmm. Puis Détroit Montréal.
Mm-hmm. Ben, je n'ai pas. Mon classement ressemblerait pas mal à le vôtre. Je ne vais pas nécessairement faire ça, mais ce que je vais parler, c'est. Ce qui va être intéressant, mis à part le Canadien, je pense que ça va être le dossier des gardiens de but pour pas mal toutes ces équipes-là. Ouais. Je pense pour Boston, est-ce que Swayman va pouvoir prendre la chaise un peu, que, pour reprendre l'expression à Martin Saint-Louis, voler la chaise à Linus Ullmark, qui justement a perdu cette chaise-là pour la partie la plus importante de la saison passée pour les Bruins en partie numéro 7. Pour Toronto, Samsonov, plutôt aujourd'hui, parti de l'entraînement avec une blessure et a reçu un lancer au niveau de la tête, quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il est blessé long terme, mais même lui, il a eu une bonne saison à Toronto. Est-ce qu'il va être capable de répéter ce genre d'exploit-là? Ils ont Joseph Ward aussi qui s'en vient. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui peut prendre la relève s'il y a une blessure du côté de Samsonov. Côté de Tampa Bay, Vasilevski, il va s'absenter pour comme 8 semaines, quelque chose comme ça. Là, leur gardien partant, c'est supposé être Jonas Johansson, qui est vraiment pas confiance en lui, surtout qu'il s'est fait scorer 10 buts par le Canadien, la pire équipe du Canadien de l'histoire.
Pourquoi que Primo pourrait partir au balotage?
Mais je sais pas, j'ai peut-être plus confiance en Primo que Jonas Johansson, honnêtement. Vous, là, j'ai jamais été vraiment impressionné par ce gars-là, sans vouloir l'offenser. J'espère qu'il ne nous écoute pas en ce moment. Du côté des Sabres, c'est Devin Levi. Est-ce qu'il va être capable de jouer 5 ou 6 parties, une couple de parties en fin de saison? Il est bien, très bien paru. Mais là, pour une saison complète, est-ce qu'il peut être vraiment un gardien partant aussi jeune dans les nationales? Quelque chose qui va être intéressant. Ottawa, je vais être vraiment intéressé de voir comment Korpisalo, est-ce qu'il va pouvoir répondre présent? Ou est-ce que ça va être un genre de situation à la Edmonton l'an passé où est-ce que bon, on va chercher un gros gars, un gardien de calibre de Jack Campbell, tu sais, qui paraissait bien. Finalement, c'est Skinner qui vole la place. Tu sais, le gardien déjà là, comme Anton Forsberg, qui je pense qu'il est quand même assez sous-estimé. Je pense que tu sais, la solution pourrait être à l'interne. Je pense que Forsberg, il n'a pas les meilleures statistiques. Je pense que l'an passé, c'est genre un 902 de taux d'efficacité, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il n'a jamais été aidé parce qu'il n'a jamais eu des grands défenseur défensif devant lui. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu à la Carol Vejmelka à Arizona. Ses chiffres sont tellement impactés par le fait que la défense devant lui est quasiment absente. Donc, je pense que Forsberg et Korpisalo, ça pourrait être une lutte plus serrée qu'on le pense au début. Puis, pour Détroit-Montréal, c'est, je pense, personne ne s'attend vraiment à ce qu'ils fassent les séries, mais ça va être intéressant de voir le côté gardien de but aussi. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là?
Wow, Greg, c'est vrai que tu amènes un excellent point. C'est vrai que la situation des gardiens de but dans l'Atlantique fait jaser, là, surtout qu'on dirait que, mettons, comparativement à la métropolitaine, où que là, tu as vraiment des gardiens de but numéro 1 certifiés. Évidemment, je parlais du duo Bruce Shishtokin et Sorokin qui sont peut-être les deux meilleurs gardiens de but dans l'histoire de hockey en ce moment. Mais c'est vrai que quand on voit cette équipe-là, quand on voit cette division-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui peuvent se poser pour presque toutes les équipes au niveau de qui va être le gardien de but numéro 1. Moi, je pense qu'il y a juste vraiment du côté de Détroit où je pense que Villeuso va être vraiment le gardien de but numéro 1 dans cette équipe-là. Moi, je pense que c'est le seul endroit qui était sûr. Même Montréal aussi, je pense que c'est même Montembeau. Il n'y a pas vraiment de danger avoir un Jake Allen être gardien de but numéro 1 à Montréal. Je pense pas que ça va arriver. Moi, par contre, du côté des Sénateurs d'Ottawa, le seul problème, c'est que je pense pas que DJ Smith soit l'entraîneur pour cette équipe-là. Moi, c'est ça le bémol. C'est pour ça que je vois pas les Sénateurs d'Ottawa être plus haut. C'est pour ça.
Mais honnêtement, je pense que Ottawa peut se rendre en série. Par contre, DJ Smith va prouver pourquoi que cette équipe-là peut pas se rendre très loin non plus.
Non. Moi, j'ai l'impression que c'est. Moi, j'ai vraiment l'impression que si Ottawa a le même début de saison que l'an passé, DJ Smith va juste partir.
Ils vont chercher Mike.
Qui?
Ils vont chercher Babcock.
Aïe, man. Pour vrai, ça serait une catastrophe. Là. Ça serait une vraie, de vraie catastrophe. Impossible. Impossible, possible, 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 possible. Écoute, on verra plus jamais Babcock avec ça. Non, non, je suis pas prêt à dire ça parce que. Écoute, je pensais que c'était la même chose quand Toronto avait congédié Babcock. Je pensais que c'était fini, mais non. Mais non, Babcock qui peut revenir, c'est quand même un entraîneur qui a remporté 2 médailles d'or avec l'équipe canadienne, alors que même moi, j'aurais pu gagner un médaille d'or en étant entraîneur de Team Canada, je dis ça comme ça. Mm-hmm. Et il a quand même remporté une Coupe Stanley avec Détroit, alors qu'il y avait plein de joueurs qui sont en termes de renommée. Ça de même. Mais bref, c'est quand même intéressant ce qui va se passer dans l'Atlantique. Mais par contre, moi, l'autre affaire que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau de la robustesse aussi, ça va être quelque chose dans cette division-là. On dirait que qu'il y a plusieurs équipes qui sont renforcées dans ce domaine-là. Du côté de Boston, t'as le retour de Milan Lucic. Puis Boston, ça reste quand même une équipe qui est très physique au niveau historique. Du côté de Toronto aussi, Ryan Reeves aussi. La question de Ryan Reeves, qui je ne sais pas si est faite pour ça, mais va être clairement juste pour ça. Puis également aussi, tu as Bertuzzi et Domi qui ne sont pas des joueurs qui ont peur de jouer du coude avec les autres.
Sans oublier le légendaire Bokonji Imama à Ottawa.
Aussi. Puis t'as encore Pat Maroon. Pat Maroon, il n'est plus là, c'est vrai. Il est parti au Minnesota. Il est plus à Tampa Bay. Non. Ça, c'est... bon, ben Tampa Bay, il ne fera peut-être pas essayer finalement. Je suis désolé. C'est mon erreur. Je pensais que Pat Maroon était là. Désolé. Quand t'as un gars qui a remporté 3 Coupes cette année de suite, dont 4 finales de suite. Hein. Ça comme ça. Là. Mais bref, c'est quand même, ça va être intéressant du côté de cette division-là qui va être une division très, très robuste. Puis évidemment, du côté de Montréal, ben, t'as notre bon ami Arba Jacka qui va être encore là. Puis peut-être que Pezzetta va jouer des matchs, surtout si le Canadien affronte Toronto ou Boston là, du côté du TD Garden ou du côté du Scotiabank Arena. Là. Je pense que c'est mm-hmm. comme ça que ça s'appelle dans le stade.
De... Ouais, c'est rendu Scotiabank Arena.
Ouais, Scotiabank Arena. Parce que c'était pendant longtemps, c'était Air Canada Center, je pense. Pendant très très longtemps.
Ouais,
c'est ce que je suis à Bank Arena. Ok, ça peut être tout. En fait, tout peut arriver. Bon, les gars, là maintenant, l'autre côté, division Atlantique. Pas division Atlantique, pardon, mais division métropolitaine. Écoute, je pense que les deux premiers, voire les trois premiers, ça va être les mêmes pour nous trois. Là. Je pense que moi, je vois la Caroline encore terminer premier de cette division-là. Surtout que le retour de Svechnikov. Avec quand même une équipe qui est allée chercher des gros morceaux en défense, hein, Dmitri Orlov et.
Ça me surprend que tu aies mis Pittsburgh.
Non, quand même. Je suis un fan, mais je suis pas irrationnel non plus.
Es-tu un fan?
Ah, peut-être.
Es-tu vraiment?
Non.
Personne ne s'en serait du tout.
Guys, quand même, je vais être objectif, rester objectif. Bref, je vois la Caroline terminer première de son groupe. Par la suite. Les Devils de New Jersey aussi. Moi, j'ai hâte de voir cette équipe-là parce que c'est une équipe qui a vraiment surpris tout le monde l'an dernier. Donc, je serais vraiment curieux de savoir comment. Ça va être quoi l'évolution des jeunes joueurs? Jack Hughes, est-ce qu'il va vraiment devenir un top 5 ou est-ce qu'il va devenir un top 5 des meilleurs joueurs dans l'extérieur de hockey? En ce moment, il est rendu dans le top 10, à mon avis, des meilleurs joueurs dans l'extérieur de hockey. Là, tu vois la première vraie saison d'initiale d'hockey de Luke Hughes, le petit frère de Jack. Et je pense aussi que Simon Nemec, est-ce qu'il va jouer sur sa première saison officiellement dans l'initiale d'hockey?
Je pense pas que ça a été confirmé encore.
Ça n'a pas été confirmé, donc il va avoir ça qui va être à surveiller. Puis également aussi, tu vois la première vraie saison de Timo Meier avec les Devils de New Jersey. Tu as l'arrivée de Tyler Toffoli également. T'as encore le même noyau avec Jasper Bratt, avec Nico Escher. T'as Doug Hamilton qui est en défense avec le nouveau Luke Hughes, mais également aussi Jonas Siegenthaler aussi qui est un défenseur sous-estimé. Pour vrai, c'est tellement un bon défenseur. Puis John Marino, ça me frustre. Juste en parler, ça me frustre. Bref, je vois les Devils terminer deuxième. Je vois les Rangers terminer troisième de cette division-là. Les Rangers, je trouve que ça ne s'est pas amélioré. Moi. Je trouve que ils ont quand même perdu des morceaux importants. Puis là, j'ai vraiment hâte de voir si ça va être encore une fois Shostakin qui va permettre à cette équipe-là d'être parmi les meilleures équipes de cette division-là. Je vois Pittsburgh terminer quatrième de cette division-là. Je pense pas que l'acquisition de Rick Carson va vraiment faire en sorte que les Packers vont se retrouver dans le top 3 de cette division-là. Là, quand même, soyez réalistes. Je pense que Rick Carson est quand même un défenseur offensif. C'est pas un gars qui. Je pense pas que les Packers avaient tant une nécessité d'aller chercher. En fait, je pense pas que les Packers avaient tant besoin d'aller chercher Rick Carson. Je pense que le problème, c'était dans le top, le bottom 6, où c'était là qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Parce que l'an passé, si tu regardes le top 6 des Packers Pittsburgh, ça a quand même bien été. T'as une saison de Crosby ou Malkin qui a joué 82 matchs la première fois, les deux, dans leur carrière. C'est quand même assez particulier. Il n'est vraiment pas fait des séries. Ça, c'est quand même spécial. Puis, t'as Genzo, t'as Ross, t'as Rebecca qui a eu une bonne saison. Là, t'as Riley Smith. Bref, c'est une équipe qui, oui, s'est améliorée, mais je pense pas que ce soit suffisant pour être dans le top 3. Ils vont peut-être faire les séries, mais s'ils font les séries, c'est en étant une des deux équipes repêchées. Il y a les Islanders de New York que je vois cinquième. Je vois Columbus aussi s'améliorer. Je pense que Columbus va terminer derrière les Islanders de New York. Les Islanders de New York, c'est pas compliqué. Tout va dépendre de Sorokin. Si Sorokin connaît la même saison que l'an passé, les Islanders pourraient faire les séries éliminatoires. S'il y a une saison plus décevante, je vois pas les Islanders de New York faire les séries éliminatoires. Je pense pas que ce soit possible. Puis par la suite, les deux dernières équipes, ben, je vois les 14 Washington terminé avant-dernier, puis Philadelphie, dernière équipe de cette division-là. Tom?
Ben écoute, c'est exactement la même chose que toi. Donc, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Je pense que Columbus aurait le potentiel de dépasser Islanders si Sorokin n'a pas une mauvaise saison. Mm-hmm. Mais seulement ça, sinon c'est exactement la même chose, on est tellement connectés.
Ouais.
Ben, pour moi, c'est aussi le même top 3. Ça pourrait interchanger en termes de dans ce top 3-là, mais je pense que c'est pas mal la même chose. Je vois aussi Washington, Philadelphie, Columbus manquer les séries. Puis je pense que pour le wild card, ça va être vraiment s'il y en a un de côté de métropolitaine, parce qu'on sait que Atlantique, c'est quand même assez compétitif. Je pense que ça va jouer entre les Islanders puis les Penguins. J'ai aimé honnêtement quand même l'intention. Hein, l'échange pour Carlson, parce que tu vois des gars comme Crosby, Malkin, le temps en fin de carrière, tu veux pas la reconstruction pendant que ces gars-là sont encore et qui peuvent encore te donner quelque chose. Tu vas chercher un autre gars qui est capable de donner quelque chose en étant aussi qui se rapproche aussi du bout du rouleau, comme on dit. Je pense que ils vont pouvoir se rendre au bout du rouleau en étant compétitif. Donc, ils veulent juste donner une fin de carrière de qualité à ces joueurs-là qui ont tellement donné à la ville de Pittsburgh, contrairement à, comme on voit à Chicago, qu'eux, ils ont pas été en mesure de pouvoir amener des gars comme Patrick Kane puis Taze à la retraite, mais ça a quand même payé, puisque aujourd'hui ils ont un nouveau joueur générationnel, fait que peut-être que Pittsburgh aussi aurait dû faire ça, mais qui sait, si ça marche pas, peut-être qu'on...
C'est un témoin rêve, mais ça arrivera pas. Peut-être que... Ouais,
Ça serait arrivé d'où en parlant encore.
Ben non, mais tout le monde aurait chialé, tout le monde aurait dit que les pingouins sont. Les pingouins, c'est des tricheurs. Ben,
comme
que
c'est le cas
avec Sport. En fait, c'est peut-être mieux que Connor Redon ne soit pas un membre des pingouins PSP aujourd'hui. J'ai trouvé ça drôlement bizarre. Là.
Ben c'est pas tant mieux que ça soit à Chicago personnellement, mais bon, on va pas parler trop de ça.
C'est vrai. Mais ouais, mais écoute, je pense qu'il n'y aura pas tant de suspense du côté de l'Atlantique. On est pas mal tous en accord là-dessus. Bon. Rapidement, on va aller du côté de l'association de l'Ouest. Division centrale, division quand même, je trouve quand même équilibrée. Je crois quand même que le top 3 va ressembler à celui de l'an passé. Moi, je vois les Stars terminer premier de cette division-là. Je vois l'Avalanche terminer deuxième. Peut-être que je verrai l'Avalanche terminer premier de la division centrale. Je pense que ils ont quand même plus de gros talents là, que les Stars de Dallas. Bon, les Stars de Dallas ont peut-être plus de profondeur et ont un gardien de but qui risque d'avoir une grande saison à Jack Ottinger, quand même un des meilleurs gardiens de but dans les salles de hockey. Par la suite, moi, je vois également... Je vois... Ça va être un combat entre... C'est une bataille entre le Wild du Minnesota et les Jets de Winnipeg, mais je pense que je vais aller les Jets de Winnipeg pour terminer troisième de cette... de cette division-là. Par la suite, je vois le Wild terminer quatrième. Je vois peut-être les Predators de Nashville terminer cinquième. Je vois par là. Puis les deux derniers, ça va être Saint-Louis, puis surtout les Codes qui vont être derniers de cette division-là. Ça ressemble pas mal à ça pour la division centrale, d'après moi.
Tu y aller, Craig, ou...
Ouais, ben, écoute, pour la centrale, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont taillées pour les séries éliminatoires, mais qui sont pas nécessairement, qui vont pas nécessairement performer assez en saison régulière pour se rendre là. C'est des grosses équipes qui ont quand même du talent. Je pense que Nashville vont peut-être passer à autre chose, vont peut-être aller dans un mouvement plus de reconstruction. Je pense que O'Reilly, c'est maintenant leur son numéro un. Ils ont perdu beaucoup de pièces importantes durant l'été. Je pense qu'il y a un top 4 quand même d'assez bien qui se démarque. Colorado, Dallas, Minnesota, Winnipeg. Puis pour le reste, Saint-Louis, Arizona. Saint-Louis sont vraiment dans une drôle de situation avec des contrats beaucoup trop longs pour des joueurs pas assez bons. Puis pour, je pense que je suis pas vraiment optimiste à leur endroit. Arizona et Chicago sont en transition. Puis,
J'ai oublié Chicago, c'est vrai. J'ai complètement oublié Chicago. C'est vrai. Je vois Chicago terminer
comment tu peux oublier quand même?
Écoute, Chicago, c'est... Oui, on a des nouveaux joueurs, là, notamment avec Connor Bedard, puis Taylor Hall, puis même Corey Perry arrivé, mais j'ai complètement oublié. Vas-y, continue, Craig.
Ah, c'est ça. Ben, c'est pas mal ça. Je pense que Colorado, Dallas, Minnesota, je pense que Winnipeg, c'est quand même une équipe qui va pouvoir faire des dommages. Puis je suis très confiant côté Colorado. Très bonnes additions dans la saison morte. Je pense que Drouin va faire... Désolé, je peux pas afficher mes couleurs, mais je pense que Drouin va avoir beaucoup de succès au Colorado. Puis c'est pas mal ça. Je pense que Colorado, Dallas, c'est définitivement les deux meilleures équipes de cette division-là.
Mais tu penses que Drouin va avoir une redemption season du côté du Colorado?
Je le souhaite, ça fait 6 ans que je le souhaite, mais je le souhaite encore. Puis je pense que ça va faire du bien de changer de scénario. Puis je pense que pour l'instant, après saison, ça va pas si mal que ça. Il apprend encore, mais leur avantage
numérique. Le gars a 28
ans. Non, il apprend encore à jouer dans une nouvelle équipe, je veux dire. C'est quand même quelque chose de nouveau. Il n'est pas habitué d'être sur un avantage numérique qui est aussi performant. Il y a ces deux mentions d'aide en avantage numérique rapidement. Donc, je pense qu'il va pouvoir avoir beaucoup de passes secondaires. Là, il va la passer en mettant à Makar. Après ça, ça va aller vers Rantanen ou McKinnon, quelque chose comme ça. Je pense qu'il va avoir beaucoup de passes secondaires comme ça. Puis je pense que ça va pouvoir. Il va pouvoir se rendre à un nombre de points intéressant. Mais ma parenthèse sur Jonathan Drouin est terminée.
T'inquiète. On comprend, je te souhaite ici. Tom?
Moi, de mon côté, je pense que Colorado peut remporter la division. Je m'attends aussi à ce que Drouin connaisse une bounce back season avec McKinnon. Sinon, Dallas devrait terminer au deuxième rang. Minnesota au troisième rang. J'aurais les Jets au quatrième rang. Predators cinquième. Saint-Louis 6e, Coyote 7e et Chicago au 8e et dernier.
Mais écoute, c'est vrai que Drouin, en tout cas, pour finir sur la parenthèse Drouin, je pense que ça va lui faire du bien de quitter. Je pense que ça va lui faire du bien d'un nouveau départ du côté du Colorado. Oui. Se retrouve quand même avec McKinnon, avec qui il a joué au junior. Puis écoute, c'est pas un mauvais joueur loin de là. Le problème, c'est que bon, Montréal, c'était pas fait pour lui là, au final. Là. C'est juste un constat d'échec, mais bref, on ne reviendra pas sur le dossier Jonathan Drouin à Montréal. Ça, malheureusement, on est passé à autre chose. Malheureusement. Mais peut-être
on parlera quand il va avoir fait 100 points cette saison. À la fin de saison. Je ne suis pas autant optimiste que ça, mais on s'en parlera à la fin de la saison.
Pour vrai, s'il fait 100 points, honnêtement, tu penses
pas. 3 buts, 97 passes. Notez-le.
C'est parfait, je retiens ça. C'est vrai, j'en sais.
On s'en reparle en avril.
C'est ça, exactement. On s'en reparle en avril. Bon, mais si on va terminer rapidement avec la division Pacifique, une division qui est honnêtement une belle division quand même. Bon, il y a quand même deux équipes extrêmement mauvaises.
Il y a trois des pires équipes.
C'est ça, il y a trois des pires équipes dans l'extérieur de hockey, mais si on sait ces équipes-là, pour vrai, le top 3, je trouve, qui est drôlement intéressant. Donc, voici la prédiction. Je vois les Oilers de Edmonton terminer premier de ce groupe-là. En fait, moi, je pense que ça va être une saison importante pour la carrière, en fait, de Nathan McKinnon, pas Nathan McKinnon, mais de Connor McDavid et Leon Draisaitl, parce que, pour vrai, je pense pas que les Oilers peuvent continuer à avoir autant de constats d'échecs en série éliminatoire, c'est impossible. Mais là, on parle de saison régulière. Donc, je vois les Oilers terminer premier. Je vois les Golden Knights terminer deuxième. Je vois Je vois le Kraken terminer deuxième. Ça, c'est ma prédiction un peu osée. Moi, le Kraken, je trouve qu'ils vont vers la bonne direction. Je trouve que le Kraken peut continuer à surprendre. J'ai confiance avec le Kraken. Je vois les Golden Knights terminer troisième. Parce que moi, je pense qu'ils vont avoir une petite baisse de régime du côté de Vegas. Peut-être que Las Vegas est l'équipe la plus talentueuse dans cette division-là. Je parle au total. Oui, ils n'ont pas les deux meilleurs joueurs de la division, mais quand même, je pense quand même que dans la globalité, c'est quand même une des meilleures équipes d'Axel d'Hockey. Mais je vois quand même avoir une petite baisse de régime du côté des Golden Knights et ils vont terminer troisième. Je vois les Kings. Je veux faire un changement de dernière minute. Les Oilers vont terminer premier. Je vois finalement Golden Knights terminer deuxième. Je vois les Kings troisième. Je vois Seattle quatrième. Laisse faire, j'ai complètement oublié Kings Los Angeles. Je vois les Kings terminer troisième. Je vois Kraken terminer quatrième. Je vois les Flames terminer cinquième. Après ça, ça va être Vancouver, des Ducks, puis Saint-Rosé. Moi, je pense que Saint-Rosé, c'est peut-être la pire équipe d'Axel Dock.
Ouais, t'es pas le seul à penser ça, je te confirme. Moi, de mon côté, écoute, ça ressemble beaucoup à toi. Je pense que les Kings pourraient terminer au deuxième rang à la place des Golden Knights. Mais sinon, c'est assez identique. Edmonton, LA, Vegas, Seattle, Calgary, Vancouver, Anaheim et San Jose.
Non, honnêtement, je ne suis pas prêt à dire que les Canucks sont tant mauvais que ça. Je pense pas que ça va être dans les trois pires équipes de la Ligue ou loin de là. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même des pièces intéressantes. Je pense qu'il leur manque juste des pièces secondaires parce que tout le star power, comme on dit, toutes les super vedettes, ils ont des éléments intéressants. Elias Pettersson, c'est un gars qui est capable de marquer 100 points. JT Miller, je pense que on en parle beaucoup, il n'a pas la meilleure attitude, il n'a pas blablabla. Mm-hmm. C'est quand même un gars qui a marqué 99 points il y a un an, qui produit, qui est un joueur difficile à jouer contre. Demko, c'est un point une question devant le filet, mais il y a le talent, il y a les habiletés pour, il y a l'athlétisme. Ils ont Hughes en défense. Ronek, qui ont allé chercher, qui est un défenseur capable, qui est très bon pour un top 4, pour une équipe compétitive, puis même pour l'instant, qui va être capable d'être sur la première paire. Je ne sais pas s'il pratique avec Hughes, je ne penserais pas, mais qui est capable de jouer dans un top 4 définitivement. Je ne suis pas prêt à dire nécessairement qu'ils vont être dans les séries, mais je pense qu'ils vont être capables de jouer des parties significatives, des parties qui vont être importantes dans la saison. Mm-hmm. Puis pour finir, je ne suis pas tant optimiste que ça par rapport à Seattle. Je pense qu'ils sont ils ont juste eu une bonne saison jusqu'à maintenant, mais je pense qu'ils sont dus quand même pour avoir une saison je pense qu'ils étaient un peu sur un nuage l'année dernière. Je les vois pas atteindre le plateau des 100 points encore une fois cette saison. Mm-hmm. Je pense que c'est Grubauer, il était bon en série, je pense pas qu'il était encore très bon en saison. Il faut qu'il trouve ses moyens le plus tôt possible parce que je pense pas qu'ils vont être en mesure de se rendre en série si ils ont pas un Grubauer qui est au moins à 900 d'efficacité parce que là, ces deux dernières années étaient désastreuses. Mm-hmm. Je pense que l'année passée, pour une bonne période de l'année, c'était Martin Jones qui était leur gardien partant, ce qui n'est pas un bon signe. Mm-hmm. Ils ont des bons jeunes joueurs, ils ont un bon noyau, mais ils n'ont pas de super vedette ou de. Ils ont McCann qui a marqué 40, ils ont Beniers qui s'en vient, ils ont Dunn qui est un bon producteur à la défense, mais ils n'ont pas le joueur pour faire la différence si tout le reste de l'équipe ne se présente pas. Je pense que c'est une équipe qui est bâtie pour faire les séries, je le dis souvent. Mais se rendre en série, je pense que ça pourrait être un problème pour eux.
Mm-hmm. Ouais, non, je comprends tes points. Puis, tu sais, moi, je veux parler aussi des Kings de Los Angeles. Tu sais, le problème, encore une fois, c'est le même problème qu'au cours des temps, ça a été le même problème dans les années. C'est qui est le gardien de but numéro un? Ça va être, là, en ce moment, pour le début de saison, ça va probablement être Cam Talbot qui va être gardien de but numéro un du côté de Los Angeles. Mais je vois pas les Kings s'améliorer avec Cam Talbot. Félix Copley comme gardien de but numéro 2. Je pense pas que ce soit tant. Je vois pas les Kings terminer devant Vegas. Le problème, c'est le gardien de but. Au niveau des gardiens de but, je suis pas très convaincu de Cam Talbot ou Félix Copley.
On leur ship Jake Allen contre Brent Clark et Quinton Byfield.
Ah, moi je serais dans.
Je dirais pas non, personnellement. Je pense que tu peux ajouter un choix, mais.
Peut-être un choix de deuxième tour.
Ouais. Oh ouais, puis tu peux mettre Armia aussi comme cadeau. Armia, vous avez besoin d'un joueur de profondeur pour votre troisième, quatrième ligne. Vous avez Armia également.
Et voilà.
Comme ça, il va se rendre jusqu'au bout. Non, mais vraie blague à part. Ils n'ont pas de place.
Peut-être que Gallagher. Il y en a qui pensent pas trop avoir Gallagher, c'est lui.
Ah, peut-être que Gallagher, avec 50% de son salaire retenu, peut-être à 3,25, ça le fait. C'est peut-être possible, hein, avec Bergevin, son meilleur ami qui est de l'autre côté. Puis essayer de mettre Gallagher sur le troisième trio avec Dano. Ça va peut-être ramener des intincelles. Du côté de Los Angeles, puis peut-être que ça va permettre à Gallagher de regagner de la confiance, qui sait, hein? Puis Bergevin de revivre dans le passé, mais en tout cas, bref. Ouais, moi, je ne suis pas très convaincu du côté des Kings de Los Angeles. Encore une fois, parce que question de gardien de but, t'es la situation dans les filets, mais c'est sûr que la ligne de centre des Kings est quand même assez incroyable. Il faut quand même le dire. Avec Kopitar, Dubois qui vient d'aller chercher, puis Philippe Dano, ça, c'est. Ils sont bien partis du côté des Kings de Los Angeles. Du côté de Vancouver, moi, je suis un peu moins convaincu. Je trouve que défensivement, c'est encore faible. Encore une fois, quand tu as Tyler Myers dans ton top 4, je ne suis pas certain que tu vas. En fait, que tu peux espérer faire un bout de chemin pour te rendre à la série éliminatoire. Je pense pas que ce soit possible. Oui, c'est vrai qu'ils ont quand même un top 6 assez intéressant, notamment avec Elias Pettersson et également JT Miller. Et en plus, avec André Kuzmenko aussi, qui, lui, va être très intéressant du côté de Vancouver. Moi, j'ai hâte de voir sa deuxième saison. Là. Lui, je trouve qu'il est hyper prometteur du côté de Vancouver, là, avec Kuzmenko. Je pense qu'il pourrait facilement marquer 30 cette saison. Moi, l'équipe que j'ai hâte de voir, encore une fois, c'est du côté des Flames de Calgary. Tu sais, les Flames ont un nouvel entraîneur, un nouveau directeur général. Là, tu vas avoir une première. Là, c'est peut-être la première vraie saison de Jonathan Huberdeau avec les Flames. Parce que pour moi, on dirait que la première saison de Jonathan Huberdeau, ça c'est juste jamais arrivé. Puis là, écoute, avec une saison sans Darius Sutter, est-ce que les Flames de Calgary vont être capables de redevenir les Flames qu'ils étaient il y a 2-3 ans? Ben, en fait, pas compliqué, les Flames de 2022, pour vrai, j'ai hâte de voir avec Huberdeau, avec Kadri, avec Elias Lindholm, avec un nouveau capitaine, hein, Mikael Backlund, ils ont quand même la même défense qu'ils avaient au cours qu'ils avaient l'an passé. Puis moi, surtout, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que Jacob Markstrom peut redevenir Jacob Markstrom de 2022. Moi, c'est vraiment ça. T'sais, parce qu'il a passé de candidat au Trophée Vézina à être un des pires gardiens de but dans l'extérieur de hockey. Puis ça a fait de mal aux Flames de Calgary. Donc, si les Flames de Calgary sont capables d'avoir des performances constantes de la part de Markstrom, peut-être qu'il pourrait revenir à ses éliminatoires. Je ne sais pas ce que t'en penses, Greg, mais moi, je pense que ça pourrait être possible, si ça arrive.
Je pense que c'est une équipe intéressante. J'ai pas nécessairement aimé la transaction de Toffoli. Je pense qu'on pourrait avoir eu définitivement beaucoup plus que juste Yegor Sharangovic sans rien lui enlever. Mm-hmm. Tu perds un gars qui vient de produire 70 points pour Sharangovic. Je suis pas sûr encore. Peut-être long terme, ça va aider, mais je pense que tu sais, c'est un peu comme les Blues, je trouve, ils sont dans une drôle de situation où est-ce que ils ont beaucoup de joueurs qui ont des contrats qui viennent à terme. On pense à Anefin, même si Backlund a été re-signé. Anefin, il y a Lindholm qui reste juste un an à son contrat. Donc, tu sais, des pièces importantes qui ont besoin d'un nouveau contrat très, très bientôt. Puis, ils ont Huberdeau qui est signé pour long terme, très long terme. Mm-hmm. Même chose pour Uyghur, même chose pour d'autres. Ouais, je trouve qu'ils sont dans une drôle de situation parce qu'ils sont, je sais pas s'ils sont assez bons pour se rendre loin en série puis compétitionner, mais ils n'ont pas nécessairement non plus ils sont pas nécessairement dans la situation propice pour non plus reconstruire avec des contrats comme Huberdeau puis Uyghur qu'on vient de leur accorder pour 8 ans. T'sais, je trouve que c'est une drôle de situation dans laquelle ils sont. Ou est-ce que, comme je viens de dire, les Blues peuvent pas non plus vraiment reconstruire avec le genre de contrat qu'ils ont, puis ils peuvent pas non plus vraiment aspirer aux grands honneurs, selon moi.
Ouais, mais c'est sûr que du côté de Saint-Louis, la différence, c'est que tes deux meilleurs joueurs ont 25 ans, hein, Jordan Carew puis Robert Thomas. C'est quand même des jeunes joueurs, là. Ils sont pas encore arrivés à leur apogée. Ils sont pas loin, mais ils sont pas à leur apogée. Alors que t'es Huberdeau, ça a 30 ans. Nazem Kadri, ça a 32-33 ans. Mackenzie Weegar est pas loin, c'est d'avoir 30 ans. Elias Edom, moi, je pense que ça va être sa dernière année, puis peut-être même qu'il va partir d'ici la date limite des transactions. Il y a eu plusieurs rumeurs au sujet de Edom puis de son avis de partir de Calgary.
Même mais chose je pense que beaucoup de ça était relié à Darryl Sutter.
Mm-hmm.
Maintenant, tu sais, à ce temps qui pue à Calgary, ça va être quoi la différence? Ben, pas la différence, mais ça va faire une différence. Je sais pas.
Non, c'est sûr, mais je pense pas que les Flames vont faire les séries, mais je pense que ça va être peut-être mieux que l'année passée. T'es, surtout pour un Huberdeau qui a quand même eu la plus grande drop de points de l'histoire d'un serre de hockey, là, quand même passé de 115 points à, je pense, qu'il a fait 60 points, même pas. C'est 58 quand même, c'est majeur comme baisse de production, là. Donc je m'attends, tu sais, Jonathan Huberdeau, c'est quand même un joueur hyper talentueux, il y a seulement
55 finalement.
55 points. T'as passé de 115 points à 55 points, là. C'est une drop de 60 points, là. C'est quand même fou, là, qu'on y pense, là. Donc, je vois pas Huberdeau être un joueur de 50 points pour le restant de sa carrière. Là, honnêtement, je serais vraiment surpris. Puis si c'est ça, il va devenir un des pires contrats dans l'histoire de hockey de loin. Donc, ça va être intéressant. Puis, quand t'as quand même deux centres, là, t'as quand même deux bons centres, Elias Lindholm et Nazem Kadri. T'as quand même des joueurs intéressants avec Huberdeau, avec Andrew Mangiapane. Bon, ils viennent de perdre Toffoli, ça fait mal, mais tu sais, moi j'ai hâte de voir comment ils vont utiliser Sharangovich, parce que moi, Sharangovich, c'est toujours un joueur que j'ai aimé. Moi, je trouve qu'il est hyper talentueux, il peut jouer dans n'importe quelle situation. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de talent que Toffoli, là, ça c'est clair, mais tu sais, il est capable de faire plusieurs choses. Puis moi, j'ai surtout hâte de voir si Dylan Dubé va avoir plus de. S'il va avoir plus de responsabilités cette saison du côté de Calgary. C'est un jeune joueur que les Flames ont misé dessus depuis son entrée dans l'excellent de hockey, mais reste que quand même, je pense qu'il y aura plus de responsabilités au sein des Flames de Calgary. Bon, messieurs, c'est ce qui complète ce grand retour de sur réception. Ça a été un plaisir quand même. Une heure et demie, c'est pas
ouais, rien. Mais je pense c'est gratté.
Ouais, mais c'était prévu aussi, là, avec tout ce qu'on avait au menu, là, c'était prévu qu'il y ait ça.
Écoute, on a même dû couper du stock. Donc...
Ouais, on a dû couper du stock. Fait que Thomas Lafond, Grégory Hamel, merci beaucoup d'être venu. Ça a été le fun. Puis,
un grand plaisir. Puis, on va essayer d'être plus constant cette saison.
Mais là, on est plus.
Ouais, c'est ça, ça va être deux.
Fait que si jamais on est indisponible, il va y avoir d'autres qui vont venir prendre la relève, là, notamment Greg. Notamment Olivier Presse-Grelot qui est souvent venu, Vincent Tardif qui va être là, Frédéric Rondeau, bref, il va avoir...
Peut-être même aussi des premières années qui s'en viennent dans pas long, donc c'est donc jamais.
Ouais, fait que, écoute, ça augure bien pour la prochaine saison d'Inside Hockey, puis écoutez, bonne saison à tout le monde, j'espère que vous allez avoir du fun, puis... j'espère que votre équipe ne va pas trop vous décevoir. Puis surtout, ça je me le souhaite. C'est surtout ça que je me souhaite. Donc, au nom de toute l'équipe, je suis Doual Ibrahim et on se voit très bientôt pour un épisode de Sur Réception. Salut tout le monde.
Le tir est la vue!
Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.